France Musique, c'est l'été.
Bonjour Jean-Louis Grinda.
Bonjour.
Jean-Louis Grinda, vous êtes le directeur de l'Opéra de Monte-Carlo, vous êtes metteur en scène, mais vous êtes surtout, et c'est ce qui nous intéresse cet été, le directeur des Chorégies d'Orange, grand festival d'art lyrique qui se déroulera jusqu'au 6 août prochain. Alors cette année, édition un peu particulière, 150 ans, 150e édition, est-ce que ce serait pas par hasard l'un des plus vieux festivals du monde ?
Ben, ça y ressemble, parce que je ne vois pas quel festival lyrique a plus de 50 ans, 150 ans, puisque Bayreuth lui-même est né un peu plus tard que nous. C'était 1869, donc l'événement est d'importance. Alors, il faut dire que le théâtre n'est pas neuf non plus, puisqu'il date de 2000 ans. Et c'est ce qu'il y a de merveilleux, justement, c'est cette l'atmosphère qui règne au sein de ce théâtre antique. Il y a 6000 et quelques places, il y a ce mur magnifique, avec cette acoustique absolument incroyable, naturelle et incroyable, et ce grand plateau qui permet de faire de grands spectacles.
Alors, je ne vais pas vous demander si vous vous souvenez de la première, ce serait un petit peu insultant et pas très élégant, mais je vais vous demander si vous savez comment ça a démarré, cette aventure des Chorégies d'Orange.
Oh bah c'est une volonté d'hommes du coin, hein, du cru, qui se sont décidés dans ce lieu qui a toujours été un théâtre, car ça n'a pas été un cirque, hein. On n'y a fait que de l'art, là-dedans, de la danse, du théâtre, et on a recommencé à y faire du théâtre en 1969. C'est toujours des fous, hein, des illuminés, des gens qui y croient, et qui ont commencé avec des pièces de théâtre, de la musique et de l'opéra. Et puis ce festival, ce qui ne s'appelait pas encore festival à l'époque, a perduré, parce qu'on s'est rendu compte que ça avait un sens. Et voilà, il n'y a eu que des arrêts pendant les deux conflits mondiaux, bien naturellement, comme partout. Mais il y a toujours eu des gens pour relever le gant de cette entreprise gigantesque et difficile qu'est de mener un festival dans un lieu aussi beau, mais aussi compliqué que celui-ci. Le grand événement, je trouve, de ce 150e anniversaire, c'est la 8e symphonie de Mahler, c'est-à-dire la symphonie des mille. Je crois que quand on le dit comme ça, ça parle davantage à tout le monde. Cette symphonie où on doit réunir plusieurs orchestres et plusieurs chœurs. Et c'est une grande joie pour moi d'avoir pu obtenir, grâce à la complicité de vraiment formidable de Radio France et de France Musique en particulier, d'avoir pu obtenir la collaboration des deux orchestres de Radio France ensemble. Donc, pour la première fois depuis des années, nous verrons le National et le Philharmonique ensemble, le chœur de Radio France, la maîtrise de Radio France, les chœurs de Munich, dirigés par Sarah Stay, et pour un concert que je crois sera tout à fait inoubliable, parce que la caractéristique numéro une de ce théâtre antique, à part sa beauté, c'est son acoustique. Et faire une œuvre aussi puissante, aussi forte, aussi emblématique que celle-ci, mais ce qui est un tour de force de la montée, je crois que ça relève bien du challenge que l'on doit développer pour un anniversaire aussi important.
Ce sera le 29 juillet et on aura le plaisir, nous, France Musique, d'y être avec vous puisque ce sera diffusé donc en direct avec effectivement tous les musiciens de Radio France. Jean-Louis Grindin, on va dire un petit mot de la production de Guillaume Tell de Rossini. D'abord, est-ce que vous mettez en scène la version d'origine, c'est-à-dire la version qui est extrêmement longue, je crois qu'elle pouvait durer de 4 heures à 6 heures. Et ensuite, quelle est la lecture que vous souhaitez en proposer au public ?
Alors tout d'abord, ça sera la version bien sûr originale, puisqu'elle sera celle créée à l'Opéra de Paris, enfin avant Garnier bien sûr, au Théâtre Italien. C'est une version qui aura quelques coupures, parce que je crois qu'aujourd'hui, et surtout à Orange, la nécessité ne s'impose pas de faire l'entièreté de la partition, mais par contre on va y respecter quand même beaucoup, beaucoup de ce que Rossini avait voulu. Par exemple, le grand final du premier acte, tout le deuxième acte seront donnés sans coupure. On rétablira même certaines choses que l'habitude des théâtres français avait oubliées quand on jouait un peu plus régulièrement qu'aujourd'hui Guillaume Tell. On va respecter, bien sûr, la volonté de Rossini, c'est-à-dire d'avoir des musiques de ballet, mais on va pas jouer l'intégralité des ballets. Enfin, il y aura quand même une partie plus que congrue et très respectueuse de cet opéra que je considère comme un des plus grands chefs-d'œuvre de toute l'histoire de l'art lyrique. Parce que c'est le testament, le point final à une carrière géniale, celle de Rossini. Et je vais le mettre en scène dans une vision tout à fait épique, puisque c'est une grande épopée. Hein, c'est la liberté d'un peuple qui se choisit un guide, un héros. Ce héros, c'est Guillaume Tell, qui ira jusqu'au sacrifice, presque jusqu'à sacrifice suprême, qui sera s'élever seul contre la puissance occupante et qui, à la fin, vaincra. Mais au-delà de non pas de l'anecdote, parce que c'est un fait historique, mais de la pièce après de Schiller et de ce qu'en a fait Rossini, on va pas le faire passer à l'époque originale, donc du XIVe siècle, 14-15e siècle, on va le faire un peu plus tard au niveau du costume, pour rendre ça plus, je pense, plus acceptable et plus agréable pour le public. C'est plutôt une époque Rossini, mais l'esprit de l'œuvre est celle-ci. C'est un esprit de conquête, de revanche et de conquête. Et puis, pour ce spectacle, une grande distribution, des chanteurs formidables, Annick Massis dans le rôle de Mathilde, Nicolas Alaimo, qui est un sublime Guillaume Tell. Mais j'aimerais souligner plus particulièrement la présence dans la fosse d'orchestre d'un chef que je trouve vraiment admirable pour ce type de répertoire, qui s'appelle Gianluca Capuano. Alors j'ai une histoire avec lui, parce que c'est Capuano, c'est le directeur musical de l'ensemble créé à l'Opéra de Monte-Carlo, Les Musiciens du Prince, ensemble créé avec Cecilia Bartoli, qui est présent à Salzbourg tout l'été notamment. Et Capuano a accepté de faire ce Guillaume Tell avec moi, parce qu'il ne l'a jamais dirigé, et je crois que il était très enthousiasmé par le faire dans des conditions aussi exceptionnelles que celles-là. Parce que le faire dans un théâtre de 7000 places en plein air, comme ça, enfin, c'est un challenge épatant.
Et c'est aussi un challenge pour le metteur en scène, parce que vous êtes habitué à travailler dans des opéras avec des cintres, des dessous de scène, une machinerie importante. Ici, il n'y a pas grand-chose. Il faut réussir à faire du spectacle avec peu de moyens techniques, en tout cas.
Oui, alors on peut quand même faire rêver les gens avec la musique, avec le sujet, avec des grands chœurs. Et puis, je crois qu'on va jouer beaucoup avec les technologies nouvelles, les projections, qui nous permettent de créer des lieux tout à fait signifiants et de changer de décor aussi rapidement que si on claquait des doigts. Puis je pense que le côté épopée de Guillaume Tell convient bien aux immenses projections que nous sommes en train de préparer. Il y aura des projections des Alpes, bien sûr, des montagnes, mais également du lac en furie pendant la fameuse tempête. Vous savez que Rossini écrivait toujours des orages ou des tempêtes, alors là on est servi. Il y aura tout ça, et je crois que ça pourra faire rêver le spectateur et accompagner surtout le rêve de Rossini.
Yeah.
Jean-Louis Gradin, il y a un autre grand festival d'art lyrique dans la région, c'est le festival d'Aix-en-Provence. Alors comment est-ce que vous vous situez avec les Corriges d'Orange par rapport à cette autre manifestation lyrique du Sud ?
Eh bien, géographiquement, je me situe un peu plus au nord. Et puis après, je ne me situe pas parce qu'on est dans deux environnements tout à fait différents. Donc non, on ne peut pas comparer deux festivals dont l'économie est tout à fait différente. Et même, il ne serait pas raisonnable de vouloir, même en termes financiers, même en termes de subventions, comparer l'un avec l'autre. Moi, je crois qu'il ne faut jamais regarder trop. Il faut regarder avec admiration et respect ce qui se passe ailleurs, ce que je fais, mais sans envie.
Alors justement, vous parlez de l'aspect économique. On sait qu'il y a quelques années, les Corriges d'Orange ont eu quelques difficultés financières. On en est où aujourd'hui ?
Eh bien, aujourd'hui, il n'y a plus de difficultés financières, puisque les pouvoirs politiques m'ont écouté, j'allais presque dire pour une fois, c'est pas vrai, c'est pas pour une fois d'ailleurs, mais en l'espèce à Orange, pour une fois, oui, ils ont compris que c'est pas cette année que c'était dangereux, c'est l'année dernière, c'est il y a plus d'un an, hein, c'était en janvier 18 que l'édition même du Festival 2018 était totalement remis en cause par manque de financement, et il était déraisonnable de se lancer dans l'aventure d'un nouveau festival sans avoir les fonds nécessaires. Je crois que c'était même au-delà du déraisonnable, ça aurait été coupable de le faire.
Jean-Louis Grinda, on va devoir se quitter, mais avant de se quitter, j'aimerais vous poser une dernière question, parce qu'alors vous, vous baignez dans l'opéra, en fait, depuis tout petit, on ne l'a pas précisé, mais un papa qui était baryton, directeur d'opéra aussi, donc j'imagine que vous frayez dans les coulisses des opéras depuis le plus jeune âge. Quels sont vos plus grands souvenirs, vos souvenirs les plus amusants d'opéra, peut-être enfant, peut-être au Corrigi, où vous veniez sans doute enfant, bien avant d'en devenir le directeur?
J'ai des jolies anecdotes qui ne sont pas les miennes, mais qui sont celles du passé. Une des plus jolies anecdotes que je connais, c'est celle de mon glorieux prédécesseur, Raoul Gainsbourg, qui était plus de 50 ans directeur de l'Opéra de Monte Carlo. Génial. Je veux dire que le pape des directeurs d'opéra, s'il en fut un, jamais. Alors, je crois que c'était à l'époque, c'était Chaliapine qui chantait, je ne sais pas quel rôle à Monte Carlo, dont il était familier. Il y avait créé Don Quichotte notamment. Alors, est-ce que c'est Don Quichotte? Est-ce que c'est autre chose? Je ne le sais pas. Mais Chaliapine, au cours de la répétition générale, se dispute avec le chef d'orchestre qui s'appelait Léon Géin, très bon chef d'orchestre. Bon, il se dispute, comme ça peut arriver encore aujourd'hui. Et à ce moment-là, les musiciens prennent fait et cause pour leur chef d'orchestre et commencent à huer Chaliapine de la fosse d'orchestre. Vous imaginez que l'artiste et la grande star qu'il était l'a très mal pris. Il demande à Gainsbourg de le rejoindre dans sa loge et lui dit « Cher ami », en russe, bien sûr, il lui dit « Cher ami, dans ces conditions, si je n'ai pas les excuses de l'orchestre, je ne jouerai pas demain soir. » Enfin, donc, Gainsbourg s'affaire, transpire, essaye de le convaincre, rien n'y fait. Et le lendemain soir, Chaliapine arrive, se maquille, se costume, il est prêt. Il fait appeler Gainsbourg et il fait constater à Gainsbourg, regardez, je suis prêt et j'attends les excuses. Si je n'ai pas d'excuses, je ne rentrerai pas en scène. Bon, Chaliapine intraitable, Gainsbourg transpire encore plus, dit, mais ne vous inquiétez pas, cher ami, je vais arranger ça. Un quart d'heure après, un violoniste et un clarinettiste toquent à la porte. Ils entrent devant Chaliapine costumé, grimé, impressionnant. Et ils disent, en présence de Gainsbourg, au nom de l'orchestre, Monsieur Chaliapine, nous vous présentons nos excuses. Triomphe de Chaliapine, Gainsbourg les fait, merci chers amis, sort alors cher ami, il dit, bah, bien sûr, je joue dans ces conditions-là, très bien. Il sort avec les deux gars, et à ce moment-là, il leur retire le violon et la clarinette. C'était deux croupiers qu'il avait été chercher au casino, qui étaient habillés en habits. Comme les musiciens à l'époque étaient un ami, il avait dit, tenez, prenez ça, allez vous excuser. Alors les gars lui disent, mais pourquoi? Allez vous excuser. Eh bien écoutez, c'est peut-être la plus jolie histoire de directeur d'opéra que je connaisse, et elle est à méditer par tous mes collègues.
Merci beaucoup Jean-Louis Grinda pour cette belle histoire en particulier. On vous souhaite en tout cas un bel anniversaire, une belle 150e édition des Corriges d'Orange, et puis un très beau festival.
Merci à vous et merci à France Musique.